Les micros de fréquence oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez. La cinquième édition du festival qui cloche sur Fréquence Sillé 97.9 FM.
Nous sommes avec Alain Lecuc et avec Narges Majd. Vous nous venez donc d'une compagnie qui est la compagnie du Papier Théâtre. Vous êtes de la Marne.
Hein ? De la Marne, tout à fait.
Vous êtes de la Marne, donc c'est pas spécialement pour nous la porte à côté. Ceci dit, c'est pas le département voisin où il y a la grande école aussi.
L'école de Marine est à Charleville-Mézières, dans les Ardennes.
Donc, est-ce que justement, géographiquement, autour de cette école, on voit, et dans les départements voisins, on voit un mouvement de développement de spectacles de marionnettes ou de petites formes, plus que dans d'autres départements ? Est-ce que cette proximité joue ?
Cette proximité joue dans un certain sens, dans la mesure où non seulement il y a l'école, mais aussi le très grand festival mondial de la marionnette à Charleville. Donc disons que c'est une région qui est assez intéressée par la marionnette et assez habituée à voir de la marionnette. De là à dire qu'il y a plus de spectacles de marionnettes en Champagne-Ardenne qu'ailleurs, je ne crois pas. Il y a en plus, certains anciens étudiants ont essayé de rester dans la région, mais il est sûr qu'à partir du moment où il y a une école, un festival mondial, un institut international, je dirais que les fonds en direction de la marionnette sont déjà bien signalés et que par conséquent, c'est pas très facile pour une compagnie de s'installer sur une région comme la région Champagne-Ardenne.
Alors Alain Lecuc, si je vous pose cette question-là en généralisant d'entrée, c'est parce que vous avez occupé des responsabilités en tant que, oui, que président donc de l'association des marionnettistes de France et vous avez donc cette vision globale.
Oui, c'est vrai, c'est une... Bon, l'Association nationale des théâtres de marionnettes en France regroupe aujourd'hui à peu près 250 compagnies. Donc c'est vrai que c'est une association qui représentative, comme on dit, le milieu. J'ai dirigé pendant 6 ans cette association. Enfin, j'étais le président pendant 6 ans. Mais on avait eu l'intelligence de faire des statuts très bien parce que au bout de 6 ans, il faut laisser la place. Je trouve que c'est une très bonne chose de pas s'incruster, de pas rester.
Nous reviendrons vers vous, Alain Lecuc, tout à l'heure pour aborder justement le spectacle que vous venez de présenter ici. J'aimerais me tourner vers Narges Majd. Bonjour.
Bonjour.
Alors, approchez-vous bien du micro parce qu'en plein air, il faut qu'on se mette vraiment très près. Narges Majd, on a tout de suite entendu à la consonance du nom que c'est pas spécialement de champenois ni ardennais, c'est clair. Vous venez d'où
Je suis iranienne, et puis je travaille avec Alain Lecuc dans la compagnie Papier Théâtre, et je fais l'université de la marionnette en Iran, donc je suis marionnettiste formé en Iran, et je travaille maintenant en France.
Alors, expliquez-nous un petit peu les différences qu'il y a dans le spectacle de marionnettes entre l'Iran et puis une civilisation, une culture très très différente de la nôtre, et puis la marionnette et notre culture. Qu'est-ce qu'il y a de différent, de complémentaire
En fait, je ne sais pas vraiment quoi dire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de marionnettes en Iran, beaucoup de théâtres de marionnettes, c'est beaucoup de compagnies de marionnettes.
C'est une vieille tradition la marionnette.
Il y a des traditions de marionnettes là-bas aussi, oui. Mais ce qui est très présent aujourd'hui, c'est pas, il y a la tradition, mais la tradition n'est pas les spectacles qu'on voit le plus là maintenant. Parce que comme il y a 3 universités de la marionnette en Iran, il y a beaucoup, beaucoup de marionnettistes chaque année qui sortent de l'université, qui commencent à travailler. Donc, je ne peux pas vraiment dire c'est quoi les différences parce que il y a vraiment, il y a toujours des différences.
Tous les supports, toutes les techniques sont utilisées avec la même diversité qu'en France. En
oui,
fait.
Oui.
Il n'y a pas un genre très très spécial. Je pense par exemple, on a en tête par exemple l'Italie avec des types de marionnettes bien particulières.
La marionnette.
Est-ce qu'il y a des héros particuliers par exemple de la marionnette classique, comme chez nous on a par exemple les Guignols les Guignols de l'info, le Guignol de Lyon.
Il y en a plusieurs. Le plus connu, il s'appelle Mobarak, qui est une marionnette à fil, un personnage drôle, un peu comme Guignol. Mais il y a des autres, par le Van Kachal, il y a des marionnettes qui étaient surtout utilisées pendant les rituels. Donc oui, il y en a pas mal, mais en fait, aujourd'hui, il y en a de tout.
Est-ce que la marionnette a la possibilité de s'exprimer sur des questions sensibles, voire politique. Hein. On a en tête des images de dessins animés, par exemple, on pense à Persepolis, hein, par exemple.
Hein. Bon, ça, c'est fait à l'étranger de toute façon. Les choses comme ça ne sont pas faites en Iran, mais c'est vrai que en Iran, tous les artistes dans tous les domaines, de toute façon, comme partout dans le monde, ils montrent ce qu'ils pensent, ils essayent de montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Donc, bien sûr, ça existe.
Et est-ce qu'il y a des soucis d'expression vraiment? Il y a de l'autocensure ou...
Je trouve que les artistes iraniens ont plutôt trouvé les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ces moyens ont créé une ambiance qui est quand même différente de l'ambiance de travail ici, de temps en temps dans le cinéma, dans le théâtre, dans la marionnette, dans tout. Et puis même la peinture et tout. Mais quand même, ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie de faire, enfin.
Et est-ce que la religion aussi apporte des contraintes par rapport à cet art-là? Nous sommes dans une république islamique, donc je pense que la religion doit peser assez lourdement sur la façon dont les créations peuvent
se faire. Justement, c'est ça que je disais, parce que on ne peut pas faire comme on fait ici, c'est sûr, c'est clair. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on n'a pas le droit de montrer des choses sur scène, on n'a pas le droit de se toucher sur scène, mais quand même, ça nous oblige de trouver les moyens qu'on n'utilise pas nécessairement ici. Donc du coup, ça crée des autres choses qu'on n'a pas ici. Donc, et les artistes, de toute façon, font ce qu'ils ont envie de faire.
Et alors, pourquoi vous êtes venu en France plutôt que dans un autre pays?
Alors, moi, en fait, en tant que marionnettiste, je n'arrivais plus malheureusement à gagner ma vie en Iran, seulement en faisant le spectacle sur scène. Je travaillais comme traductrice, interprète, et mes collègues souvent font autre chose. Ils travaillent avec la télévision, la radio, des choses comme ça. Et puis, comme c'était pas un travail de faire comme ça en mi-temps, un peu de traduction, un peu de spectacle, j'ai quitté la marionnette. Et après, quand j'ai rencontré Alain Lecuc, il m'a proposé de recommencer à faire la marionnette. Et bien sûr, j'avais une envie de le faire.
Comment ça se passe, la rencontre avec quelqu'un comme Alain Lecuc?
Alain Lecuc, il est venu en Iran. Et il a fait un stage là-bas. Et moi...
Il a encadré un stage.
Oui.
Il a animé un stage, oui.
Oui. Et puis, moi, j'ai participé dans ce stage. Et puis, comme ça, moi, j'ai découvert le théâtre de papier, en fait. Et il a trouvé mon travail intéressant aussi. Donc, il m'a proposé de venir en France, faire un stage complémentaire. Je suis venue en France, j'ai fait ce stage. Et puis, il m'a proposé de rester. Depuis, on travaille ensemble.
Donc, vous étiez déjà sur le théâtre de papier à l'époque, en Iran?
En Iran, non. J'ai découvert le théâtre de papier avec Alain Lecuc. J'étais marionnettiste, mais je ne faisais pas le théâtre.
Et quel type de marionnette principalement?
Quand on fait l'école de marionnette, il faut tout faire, hein. Après, ouais. Mon thèse était sur marionnettes dans la rue.
On va retourner vers Alain Lecuc. Merci pour toutes ces précisions sur cet itinéraire. Donc, Alain Lecuc, vous avez présenté ici Roméo et Juliette.
Oui.
Bon, ce n'est pas Shakespeare qu'on a vu.
Non,
ce n'est
pas Shakespeare.
C'est tout à fait autre chose. Le texte, il n'est pas de vous.
Non, le texte n'est pas de moi. Il a été écrit donc par quelqu'un qui est un Anglais, qui s'appelle Edward Gordon Craig, qui était quelqu'un qui venait du monde du théâtre. Sa mère était une très grande comédienne et qui s'est passionné pour le théâtre et qui a été un grand théoricien du théâtre. Mais il avait en même temps une espèce de une passion pour la marionnette et il avait écrit une série de petites pièces courtes sur la marionnette, à part pour jouer par la marionnette. Ça s'appelait les dramas for fools, donc les pièces pour fous. Et donc, son rêve, c'était d'écrire une pièce pour pouvoir jouer chaque jour. Donc, d'écrire 365 pièces. Il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas été jusque là. Mais il en a écrit pas mal, dont ce Roméo et Juliette, qui est une parodie de Roméo et Juliette.
Alors, un petit théâtre de marionnettes assez classique,
en fait. Absolument. Voilà. Tout à fait. Oui, absolument.
Hein, et vos personnages sont des personnages en papier.
Voilà, c'est ça. Ils sont des personnages en papier. C'est-à-dire que le théâtre de papier, c'est une technique qui, elle, existait auparavant, qui, effectivement, n'était pas utilisée. C'est une technique du 19e siècle, qui était une technique, en fait, utilisée uniquement par les amateurs, puisque les gens allaient acheter des feuilles de théâtre avec des personnages, des décors, la façade du théâtre, chez le libraire, et ces feuilles, ils les collaient sur des cartons, ils construisaient leur théâtre, et ils faisaient leur théâtre à la maison. Ça a toujours été un théâtre familial, d'amateurs. Ces théâtres étaient publiés un peu partout en Europe, et puis ça avait disparu avec, disons, c'est une histoire qui a duré une centaine d'années, qui s'est arrêtée à peu près avec la Première Guerre mondiale, quand le cinéma est arrivé, que le public s'est plus plus précipité vers le cinéma qu'au théâtre. Et on a arrêté de vendre ces théâtres. Il se trouve qu'on a été quelques-uns, il y a une trentaine d'années maintenant, à redécouvrir d'une façon ou d'une autre. Moi, en voyant jouer un monsieur âgé, que je trouvais très âgé à l'époque, mais en fait, qui avait mon âge aujourd'hui, donc il n'était pas si âgé que ça. Donc, par conséquent, c'était
un... Tout est relatif.
Tout est relatif, exactement. Et donc, j'ai vu ce monsieur jouer du tas de papier. Il me dit, tiens, c'est intéressant. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à cette technique de figurines plates. Alors, au moment où on revient...
Enfin, c'est des figurines, pour donner un ordre d'idée, puisqu'on a pas le visuel, elles font à peu près
25 centimètres, voilà, tout à fait, oui. Donc, ce sont des dessins, des reproductions, ça dépend des spectacles, avec des décors aussi qui sont comme un petit théâtre. En fait, ça ressemble à un petit théâtre miniature, plat, voilà. Et j'ai trouvé que l'histoire, cette parodie de Roméo et Juliette, allait très bien avec ce genre de théâtre, d'autant que donc cet auteur, Gordon Craig, c'était vraiment, avait déjà écrit plusieurs articles sur le théâtre de papier. Alors voilà, j'avais envie de faire coïncider ces deux choses-là.
Alors c'est quoi en fait l'ambiguïté dans Roméo et Juliette,
c'est l'humour noir.
Revu et corrigé 1917
c'est de l'humour noir total, puisque en fait c'est Juliette qui se construit pendant que Roméo se détruit. Donc, le début, Roméo, beau jeune homme, déclare sa femme à Juliette, qui peut pas voir, puisque Juliette ne se montre que balcon et que sa tête. Mais en réalité, c'est un personnage qui a un pied comme un pied pour accrocher des vêtements. Enfin, elle est en morceaux encore. Et à mesure que le pauvre Roméo, lui, va perdre des parties de son corps, elle va se construire. Ce qui va arriver jusqu'à la fin où, effectivement, lui va mourir alors qu'elle fait la fête avec ses copains et ses copines.
Oui.
Donc, c'est ouvert sur un tas de possibilités. C'est vraiment le massacre de Roméo et Juliette, en fait.
Oui, c'est surtout le massacre de...
Oui, de Roméo.
De Roméo, oui, concrètement.
À la fin, excusez-moi, mais à la fin, on voit que Roméo, sur son cœur, il y a un autre prénom, Rosa, qui est marqué. Donc voilà. Quand même, c'est pas très clair. Hein. C'est pas tout le temps Roméo qui se construit, Juliette qui... Non, la contraire, en fait. Ouais. Roméo qui...
Alors, je vois que tu défends Juliette. Hein.
Quand même.
Alors, vous intervenez à deux voix.
Oui.
Donc, une voix masculine, une voix féminine, la voix de... Une voix de narrateur.
Oui, tout à fait.
Et la voix de Juliette.
Ouais, oui.
Juliette, le public ne la prend pas très au sérieux. Hein. Et il sourit de Juliette dès le départ. Hein. Ah, c'est qui cette mijaurée, cette pimbèche,
oui,
c'est un peu ça.
Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Oui. Oui.
On n'a pas une sympathie immédiate pour le personnage de Juliette.
Non, je crois que c'était comme ça dans le texte, dans la pièce. Et c'est vrai que, alors ça a une petite histoire derrière, c'est que donc Gordon Craig, l'auteur, s'est marié très jeune et avait quitté, abandonné femme et enfant, à vrai dire, pour être simple. Abandonné femme et enfant en Angleterre. Il n'est jamais rentré en Angleterre parce qu'il était poursuivi par les tribunaux pour pas payer, avoir payé la pension. Et donc, il avait une dent contre les femmes. C'était un grand amoureux. Il a été amoureux de plein de femmes célèbres. Mais il a abandonné sa propre femme. Et je crois qu'il réglait un peu ses comptes aussi dans le cadre de cette pièce, quoi. Mais c'est très amusant à jouer. On le prend pas au sérieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est une. En même temps, c'est vrai que c'est ce que je dis à la fin du spectacle, je dis un petit mot. Je rappelle que c'est une pièce de 1917. C'est-à-dire que si on pense quand même que si Craig a eu l'idée de cette mutilation, il y avait un rapport quand même avec la Grande Guerre. Il y avait quand même, il était extrêmement touché par ce qui se passait, et il y avait quand même quelque chose par rapport à cette. Peut-être aussi, on le sait, hein, qu'en 14-18, plus les hommes se faisaient tuer sur le front, plus les femmes prenaient de l'importance, puisqu'il est pour cause, il manquait les hommes dans les usines, etc. Et qu'il y a quelque chose de ça aussi dans cette pièce. Alors, faut pas le prendre à ce point-là au sérieux, mais il y a quand même cette petite remarque sur la femme qui prend son indépendance au moment où les hommes se font massacrer.
En dehors de celle-ci, est-ce que vous avez déjà repris d'autres écrits,
non, c'est
d'autres
la première
parodies
fois.
De ce type?
Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. C'était une occasion de trouver un texte comme ça et d'essayer de voir ce que l'on pouvait en faire. On fait des textes un peu plus sérieux d'habitude, même si la dernière fois, l'an dernier, j'avais présenté un Robinson qui est pas, mais des pièces un peu différentes. J'avais envie cette fois-ci, enfin, quand j'ai lu ce texte, il m'a semblé que c'était évident qu'il fallait le monter, quoi. Voilà.
On va vous remercier donc, Narges Mash, d'être venu d'abord d'Iran jusqu'en France et d'être venu de France jusque à Fresnay-sur-Sarthe et venu jusqu'à ce studio. Puis Alain Lecuc d'être encore cette année venu nous rencontrer pour évoquer donc cette œuvre que vous présentez ici, qui est donc un Roméo et Juliette très parodié sous forme de marionnettes de papier.
Merci.
Voilà, merci à vous.
la 5e édition du festival Qui cloche sur Fréquence Sillé 97.9 FM. Comme si vous y étiez. Embarquez à destination du pays de la Haute-Sarthe et revivez les directs de Fréquence Sillé au cœur du territoire du lundi au vendredi à 7h15, 12h35 et 18h.